Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Dessous de table.
Dessous de table, ça y est, vous la refaites.
Ouais, je le fais, je vous regarde, Manu, et je pense au dessous de table.
Dessus de table, Philippe.
Eh oui, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Voilà. Et on est en retard aujourd'hui. Alors, réglez pas vos pendules et pendulettes, hein, comme le disait Dider. On est en retard. Voilà. On a une heure de retard. Mais on a décidé de faire l'émission. Et en plus, notre invité a été d'une patience, je dois dire.
Ah oui, ouais, on peut le remercier.
Et ça, les grands chefs, pour ça, c'est incroyable.
C'est magnifique. Bah, la cuisine, c'est beaucoup de patience, Philippe, hein.
Ouais. Comment s'appelle notre invité, Manu ?
Notre invité s'appelle Denis Imbrosi, top chef 2011, c'est ça ?
Salam alaikum ragazzi.
Ah, et voilà.
2012.
Ça, c'est du bonjour. Alors, Denis Imbrosi, hein, chef qu'on aime beaucoup, italien, né en Italie, hein, qui a grandi en Italie et qui heureusement pour nous est en France maintenant. Hein, le restaurant Ida, rue de Vaugirard, restaurant Epoca, rue Odino, le restaurant Malraux, rue Froissart. Il y a du Denis Imbrosi un peu partout dans Paris. Bon, en ce moment à emporter, hein, c'est ça.
Évidemment.
Et livraison.
Tout à fait. On n'a jamais arrêté depuis le mois d'avril. Hein.
Ouais. D'ailleurs, vous nous avez amené des petits trucs là, Denis. Ça sent la truffe blanche dans le plateau là.
Ah, on va déjeuner ensemble juste après.
Oui. Bah alors, si on parle un petit peu la bouche pleine pendant l'émission, ne nous en voulez pas.
Et on dit buon appetito.
Buon appetito.
Parfait, ragazzi.
Alors, Denis nous a amené une musique.
On va écouter une petite musique.
Ah, Mahmoud, j'adore ça.
Che ne sanno loro della violenza? Chiusa dentro quattro matrimoni, dove chi ama paga e chi non ama ci ripensa. Che ne sanno loro della sfinge, vista 8 anni con te, ridevi, ma mi hanno detto che a volte ridere è come fingere. Mettevi in macchina le tue canzoni arabe e stonavi, poi mi raccontavi vecchie favole e correvi nel deserto con lo zaino Invicta, ma non serve correre se oltre i soldi non hai più fiato né felicità.
C'è qualcosa che non capisco, come fare un tuffo nel Mar Rosso, l'ho dimenticato troppo presto, ma ricordo bene quando mi dicesti resto, persi in una vita incasinata, se ci pensi a me non complicata, ripetevi sempre la stessa telefonata, maledetta questa vostra gioventù bruciata.
Che ne sanno loro delle partenze? Se gli addi fossero di moda, forse saresti primo in tendenze. Giocavo in macchina con la Nintendo e Pokémon. Ti lamentavi se io non volevo più parlare. Aprivi il finestrino per buttar la cenere. Non serve a niente nascondere con un sorriso la merda che conosco già.
C'è qualcosa che non capisco, come fare un tuffo nel Mar Rosso, l'ho dimenticato troppo presto, ma ricordo bene quando mi dicesti resto, pensi in una vita incasinata, se ci pensi a me non complicata, ripetevi sempre la stessa telefonata, ma
Voilà, son nom de scène, c'est Mamoun, et donner un Brosi, si on l'écoute, c'est parce qu'il a représenté l'Italie à l'Eurovision.
Tout à fait.
Arrivé deuxième. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'Italie aujourd'hui, Manu?
Eh bien, Philippe, l'Italie célèbre pour la cinquième fois, la semaine de la cuisine italienne dans le monde. Ça démarre donc lundi, 23 novembre, et c'est jusqu'au 29 novembre prochain. Donc ça devait être un événement avec des manifestations en présentiel, mais bon, à cause du Covid, c'est quelque chose qui se fait de façon...
C'est très digital.
Ouais, digital, mais gourmande, hein, puisque l'un des ambassadeurs de cet événement, c'est Denis Imbrosi. Pour cette manifestation, l'Italie invite le public à voyager au cœur de la gastronomie italienne à travers une série de rendez-vous qui effectivement seront en ligne. Et puis, il y a une page Facebook, hein, vous tapez Semaine de la cuisine italienne dans le monde, vous allez trouver la page Facebook. C'est organisé par l'Office national italien du tourisme. Et il y a un mot-clé, hein, vivere all'italiana. Il se marre quand je parle italien, Denis, tellement mon accent.
Vivere all'italiana. On se demande pourquoi.
Voilà. On se demande pourquoi. Ouais. Vivere all'italiana.
Ah, magnifique. L'accent là, c'est parfait.
Bah voilà.
Vous parlez mieux chinois qu'italien, finalement.
Watching Putong.
Voilà, c'est ça. Là, comme on peut pas vérifier son chinois, on trouve qu'il parle
mieux. Non, j'ai dit, je ne parle pas chinois. Je parle mieux italien que chinois.
Alors, il y a deux rendez-vous dans cette émission. Tout à l'heure, on tirera au sort le gagnant du jeu de la semaine dernière, Manu, qui
remporte
un livre.
Ah ouais, un super livre, l'encyclopédie de la viennoiserie à la maison par Marie-Laure Fréchet, qu'on avait reçu donc la semaine dernière. Vous avez été très, 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 très nombreux à participer au concours et on fera le tirage au sort en direct. Et puis, on va faire aussi un concours avec Denis qui offre, alors là,
avec plaisir,
super, ah ouais, super lot en plus, hein. Malheureusement, nous on n'a pas le droit de jouer parce que moi j'aurais bien participé sinon, hein. C'est parce que vous allez pouvoir gagner deux menus truffes du restaurant Ida que vous pourrez retirer sur place, donc le restaurant gastronomique italien de Denis Imbrosi. Vous pourrez retirer sur place un menu pour deux personnes avec des antipasti, la burrata piatti, la pasta garofalo al tartufo et des pâtes à la truffe et un tiramisu, donc un super menu pour deux personnes. Donc n'hésitez pas à participer. Vous pouvez aller dès à présent sur mon Instagram Mariani, Mariani point Manuel, Manuel. Vous suivez les instructions et vous inscrivez, vous participez. On fera le tirage au sort la semaine prochaine et puis d'ici là, Denis va vous préparer ce petit menu qui sera délicieux.
Avec grand plaisir.
Bon, alors Denis, vous allez revisiter le minestrone pendant cette semaine. D'abord, c'est quoi la base d'un minestrone?
Les minestrone, c'est un plat réconfortant de la cuisine italienne. Et c'est un plat avec un bouillon, donc ça peut être même une soupe. Et dedans, on utilise aussi des petites pâtes. Ça peut être les pâtes creusées, par exemple, qu'on a ici en France, ou les ditalini qu'on a en Italie. Et avec, on met beaucoup de légumes. Par exemple, ça peut être, là, à ce moment, on a les choux, on a les oignons, on a les poireaux, donc la fregola sarda. Et le bouillon vient pour parfumer et en même temps réchauffer cette assiette qui peut être aussi à partager à la maison.
Ouais, c'est un monument de la cuisine italienne, mais il existe autant de recettes que de régions, finalement.
C'est ça, tout à fait. Chaque région a la sienne, chaque région utilise les produits qu'ils produisent, effectivement, et sans oublier l'huile d'olive qui accompagne aussi la recette.
Oui, Denis, parce que c'est vrai que quand on parle de cuisine italienne en France, on pense tout de suite pasta, pizza. Est-ce que ça vous agace pas un peu, vous, qui connaissez la richesse du patrimoine culinaire italien, de voir que dans beaucoup de pays, on réduit la cuisine italienne aux pâtes et aux pizzas, quoi?
Ben écoute, non, ça ne m'agresse pas parce que moi, je mange des pâtes tous les midis.
Bah oui, c'est un vrai Italien, confirme.
Donc forcément, non, j'adore qu'on voit la cuisine italienne comme ça parce qu'en même temps, c'est une cuisine des produits, c'est une cuisine facile. Mais effectivement, on a plein de recettes, un peu comme ici en France.
Oui, il y a des recettes régionales.
Régionales. L'Italie, c'est une nation qui est métissée aussi également. Donc forcément, on a plein d'influences. Par exemple, pour tout te dire, en Sicile, on fait aussi du couscous. Hein.
Oui, le couscous avec du poisson. Hein,
tout à fait, avec du poisson. Et donc chaque région,
ça s'écrit CUZ, le couscous, je sais pas comment on prononce, couscous.
Exactement. Tu es un vrai connaisseur.
Ah ben c'est mon métier, on me paye pour ça.
Et chaque région en Italie a une influence selon en fait les régions qui sont entourées. Voilà, donc nous on a le Maghreb qui est pas trop loin, on a le sud en Calabre et en Sicile, et dans le nord on a tous les pays nordiques, l'Autriche aussi, qui nous amène beaucoup des plats de chez eux, quoi. Donc forcément on est très influencé aussi également.
Ouais, il y a des influences tout autour du bassin méditerranéen. On sait pas pourquoi le couscous tunisien est plus rouge que les autres couscous. C'est parce que les Italiens ont ramené le concentré de tomate. Hein. Et voilà, voilà, c'est, non, mais c'est vrai, il y a des explications à tout en matière de cuisine. Il y a pas de mystère. Quels sont les, en France, on a la cuisine lyonnaise, la cuisine provençale, etc. Quelles sont les régions les plus réputées pour leur gastronomie en Italie?
Alors, on a la cuisine sicilienne qui est très réputée, la napolitaine également, la cuisine romaine avec les artichauts à la juive, la cacio e pepe.
Ah, oui. Et après, ça, c'est super, les carciofi alla giugia. Une recette du 15e siècle qui est née dans le ghetto juif de Rome et chez Denis, au restaurant Epoca. Ils sont magnifiques.
Merci. Et dans le Piémont, on trouve les vitello tonnato, on trouve aussi les tiramisu à Venise. Donc, effectivement, on a des plats, chez Poca en plus, on les fait, des plats traditionnels qui reflètent toute la botte, toutes les régions italiennes.
Ouais, pour expliquer un petit peu les différences de vos restaurants. Ida, c'est un peu une cuisine d'auteur, c'est de la cuisine italienne gastronomique, donc revisitée avec la touche d'Ennio Ambrosi.
C'est ça.
Et Poca, c'est la tradition traditionnelle, hein, pour faire une répétition.
Pure produit italien, exactement. Ouais. Et Malraux, c'est la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on fait, chez Malraux, on peut faire de la shashoka, du pain zatar, de l'houmous, aussi des pizzas. J'ai fait aussi des spaghettis à la rissa, par exemple. J'adore ça. Et ouais, donc, effectivement, c'est une influence de la Méditerranée. Et raison de plus, cette année, cet été, je me suis lancé sur un nouveau bouquin des cuisines de la Méditerranée, avec plein de voyages aussi en Tunisie. Et j'ai découvert plein de choses. Et je kiffe les zatars en ce moment, j'en mets partout.
Ah, le zatar, j'adore ça, ouais, bien sûr. Alors ça, parmi les condiments méditerranéens, il y a le zatar et le sumac.
Ah,
ouais, ça, c'est magnifique.
Voilà.
Philippe, est-ce que vous n'aimez pas le zatar et le cumac?
Le zatar, je trouve ça assez fort, finalement.
Oui, mais faut le doser raisonnablement.
Il faut l'équilibrer, bien sûr. Tout est une question d'équilibre dans la vie.
C'est très citronné, donc c'est comme le citron. Si on en met trop, c'est plus bon.
Mais si on a l'image de la cuisine italienne, la pizza et des pâtes, ça veut dire que c'est une cuisine qui mérite encore d'être connue, qui doit communiquer pour le reste.
Ben, tout est à découvrir, hein. C'est-à-dire que quand vous voyagez, vous prenez votre voiture. Moi, je le fais tous les étés, tous les mois d'août, je descends en voiture chez moi. Je m'arrête à chaque fois dans chaque région. Aujourd'hui, j'ai 33 ans et je découvre encore aujourd'hui des nouveaux plats, des nouvelles régions, des nouvelles villes, des nouvelles cultures, parce que c'est très riche, c'est très très riche, et il faut toujours découvrir des nouvelles choses pour s'enrichir aussi personnellement.
Ouais. Est-ce que les techniques culinaires sont différentes, parce que vous avez commencé en Italie très jeune, hein, vous avez travaillé dans la famille, et puis après vous avez travaillé en France avec des grands chefs comme Alain Ducasse, dont vous étiez le second, par exemple, sur le restaurant de la Tour Eiffel au Jules Verne. Est-ce que les techniques culinaires françaises diffèrent un petit peu des techniques culinaires italiennes, et est-ce qu'elles s'adaptent bien à la cuisine italienne?
Alors l'Italie, c'est un pays qui est riche en produits. Nous, on est des bons parleurs, on sait tchatcher, donc on sait vendre les produits. Et effectivement, tu sers une mozzarella avec une belle file d'huile d'olive, les jeux est fait. je suis arrivé en France exprès pour apprendre des vraies techniques, des méthodes de cuisson. Et effectivement, Alain Ducasse a été un des chefs qui m'a beaucoup les plus appris. Et c'est une étape obligatoire pour un cuisinier venir en France. Effectivement, j'adopte certaines techniques françaises pour réaliser mes plats. On parlait justement de l'artichaut frit à la juive, par exemple. J'utilise la technique des pommes soufflées. Donc deux bains
de cuisson, ouais.
Exactement.
Ouais.
Et pour éviter que l'artichaut soit trop imbibé d'huile, je le cuis d'abord 5 minutes à 50 degrés. Ensuite, je le laisse reposer. Et après, juste avant de le déguster, je le chauffe, je le mets à 200 degrés à l'huile pendant 30 secondes, tout juste, pour qu'il devienne croquant à l'extérieur.
Et ça permet de bien l'ouvrir aussi, hein.
Ça devient comme une rose des sables.
Mais dans un de ses livres de cuisine, Alain Ducasse a fait une recette d'artichaut à la juive. Il vous a piqué la recette, non? C'est ça?
Non. Nous, on échange, on partage, on communique.
Il n'ose pas dire du mal de son mentor.
Non, je suis un partageur dans la vie et aussi dans les recettes. Je suis pas jaloux de ça. Non. Je trouve que même quand on m'invite à déguster, à voir, à connaître, à partager des recettes, je suis le premier à prendre. Donc,
Alors les artichauts à la juive, cette recette du ghetto juif de Rome, c'est une vraie recette. C'est un vrai plat de pauvre, parce que dans l'artichaut, là, on mange tout, même les feuilles qu'on jette d'habitude. Là, on les mange, on dirait des chips.
C'est ça.
Mais c'est un truc, faut le goûter pour le comprendre. Je peux pas vous l'expliquer. C'est magnifique. Allez chez Epoca, chez Denis Ambrosi, goûter ces carciofi alla giugia, ou on appelle ça artichaut à la romaine aussi parfois. Et c'est un plat d'une simplicité, mais c'est aussi simple que c'est fantastique, ce plat. J'adore.
Est-ce que c'est un antipasti ou pas?
Tout à fait, c'est l'antipasti, ça fait partie aussi un peu de la street food parce qu'on peut aussi les déguster à Rome. Tu l'achètes et tu le manges en marchant dans la rue pour regarder un peu tout ce qui est joli à Rome, les Colosseo et tous les autres.
Bah, il est sur la carte d'Epoca d'ailleurs, sur Deliveroo et Uber Eats.
Aussi, tout à ouais. fait.
Si vous ne voulez pas attendre la réouverture des podcasts,
vous pouvez le commander chez vous, tout à fait.
Ou à emporter.
La livraison à importer à Sceaux, pareil.
Je rappelle également que vous pouvez jouer avec nous cette semaine, hein, si vous voulez goûter la cuisine de notre invité, Manu.
Absolument, Philippe. Vous allez sur mon Instagram, mariani.manuel, M-A-R-I-A-N-I.manuel, M-A-N-U-E-L. Et puis, vous regardez la dernière publication. Vous aurez une belle photo de Denis Brosi avec son couteau à la main. Et puis, vous lisez les règlements, vous vous laissez guider.
Voilà, et on parle de la cuisine italienne à l'occasion de la Semaine mondiale de la cuisine italienne. C'est la semaine prochaine. Vous êtes sur Beurre FM et aujourd'hui, on est là jusqu'à 14h.
Dessus de table revient dans un instant. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Voilà, vous êtes bien sur Beurre FM.
Bah, c'est dommage que la caméra, parce qu'on filme pour notre chaîne YouTube, c'est dommage que la caméra soit uniquement cadrée sur notre ami Denis Imbrosi.
Ah bon ? Je savais même pas.
Parce que Nico et Philippe étaient en train de danser un slow endiablé, je ne vous dis pas.
Ah non, ne dites surtout rien, Manu. On parle de la cuisine italienne. Alors, on est un peu en retard aujourd'hui, 13h, 14h. Je rappelle que vous pourrez réécouter l'émission en podcast pour ceux qui nous attendaient de midi à 13h. Mais comme on était en retard aujourd'hui, on a décidé de continuer de faire l'émission en direct. On parle d'Italie à l'occasion d'une semaine spéciale, Manu.
Absolument, Philippe. La semaine internationale de la gastronomie italienne. Et donc, c'est organisé par l'Office du tourisme italien avec tout au long de la semaine donc à partir de lundi, hein, des animations autour de la cuisine italienne, et puis avec des ambassadeurs comme Denis Imbrosi, qui est notre invité du jour. Denis Imbrosi, ex-candidat top chef, hein, un des plus emblématiques, on va dire. Et puis, chef des restaurants Ida, Epoca et Malraux à Paris. Malraux avec un O, hein, pas comme Malraux à UX.
À l'italienne,
Malraux. je le dis bien, Malraux.
Voilà. Avec la classe.
Et je rappelle que vous pouvez goûter cette cuisine en participant à notre jeu.
Absolument. Vous allez sur l'Instagram mariani.manuel, M-A-R-I-A-N-I.manuel, M-A-N-U-E-L, et vous vous laissez guider. C'est la dernière publication. Vous avez simplement à faire deux, trois petites choses pour participer, et vous pouvez gagner un menu truffe pour deux personnes du restaurant Ida, le restaurant gastronomique de Denis Imbrosi, avec des choses magnifiques, hein, au menu. Un antipasti, une burrata, des pasta garofalo al tartufo, donc à la truffe, et un tiramisu.
On parlait d'huile d'olive tout à l'heure. Avec combien d'huiles d'olive différentes cuisinez-vous dans votre cuisine, Denis ?
Alors, j'en ai plusieurs. J'utilise une huile grecque pour les cuissons, et j'utilise une huile italienne, la pericudara.
Calios pour les cuissons, non ?
Tout à fait, calios pour les cuissons.
Ça, ouais. Ça, c'est avec le copain Juan Arbelaez,
C'est la famille Top Chef. Et après, à table, oui, pour l'assaisonnement et à table, pour c'est une huile d'olive de la pericudara de Cedric Casanova, une huile sicilienne, une biancolilla qui est extraordinaire. Et j'adore aussi les nocellara comme huile. C'est des huiles qui sont plutôt vertes, qui grattent, râpent un petit peu sur la gorge au début, et qu'ensuite, en fait, ça devient carrément un vrai bisou d'huile, parce que j'adore, en fait. Plus on la mange, mieux c'est.
C'est l'huile que vous avez fait faire sur mesure, c'est ça?
C'est ça. C'est une huile sur mesure pour moi.
Et que vous pouvez acheter chez Deliveroo, d'ailleurs. Si Exactement. Vous commandez à manger chez Denis Imbrosi, vous pouvez acheter l'huile ou ses livres aussi, d'ailleurs. Exactement. Ça, c'est vachement bien.
Ouais. Mais pourquoi utiliser des huiles différentes?
En fait, chaque huile est différente. Donc, on peut l'employer sur du poisson, ou sur de la viande, ou sur des pâtes, ou sur des légumes, et tout s'y prête différemment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une huile qui est trop marquée sur un poisson qui est délicat, comme la Saint-Jacques, qui est en plein saison, par exemple. Ça peut effectivement gâcher les goûts, chose qu'il faut les sublimer. Donc une huile qui soit plus consensuelle, plus équilibrée, plus douce, et qui accompagne la Saint-Jacques. Voilà.
Et attention, l'huile d'olive, ça se conserve, mais pas très longtemps, en fait. C'est pas meilleur en vieillissant.
Non, c'est pas comme les vins. C'est l'huile d'olive, il faut le consommer tout de suite, un an maximum. Au-delà d'un an, ça commence à devenir plus compliqué. Il y a déjà la nouvelle huile qui arrive, et on a été éduqué en plus comme ça. Et comme c'est une matière grasse, elle peut rincir, pour devenir rince plus facilement.
Surtout, voilà. Oui. D'ailleurs, plus elle est pure, plus elle est vierge, plus elle risque de rincir vite. Hein.
Exactement, tout à fait.
Donc, huile d'olive jeune.
Jeune.
Jeune, première pression à froid, extra vierge.
C'est ça.
Je voulais qu'on parle du risotto.
Ah oui,
un vrai sujet. Ça, j'adore, moi, le risotto, je suis un champion du risotto.
J'ai vu que l'Italie était le premier producteur européen de riz. Je ne savais pas que l'Italie, c'était un pays producteur de riz.
Ben, il y a deux grandes variétés de riz en Italie. Il y a le Vialone Nano et le Carnaroli. Donc, Vialone Nano, c'est plutôt dans le Vénétie, Carnaroli, plutôt dans la Lombardie. Et ce sont vraiment les deux qualités de riz les meilleures pour faire un risotto. Je sais qu'il y en a aussi en Espagne, ça s'appelle Seigna. C'est un très bon riz également. Et après, on a l'Arborium un peu partout.
C'est une variété de riz bamba qui est très bien pour le risotto.
Pour le risotto également.
C'est le riz qu'on utilise pour la paella d'ailleurs.
C'est ça, tout à fait.
C'est une forme de risotto plus ou moins. Ouais.
Et c'est que j'aime bien sur la paella, c'est que c'est croustillant en fond. J'adore gratter avec la
Alors
fourchette.
Ça, c'est ce qu'on donne à l'invité d'honneur.
C'est ça.
Ouais. J'ai oublié le nom que ça porte. Mais...
Qui gratte.
Oui, absolument.
Il a le privilège de pouvoir gratter directement.
C'est le maître de maison qui gratte lui-même et qui sert ça à son invité d'honneur pour pas que les autres invités y touchent. Ouais.
C'est tellement bon. J'ai faim.
Est-ce qu'on sait d'où ça vient, le risotto? Parce que souvent, les recettes ont une légende. Manu, vous qui êtes le roi, la légende des recettes.
Alors non, je ne sais pas d'où vient le risotto, Philippe.
Qui a inventé le risotto?
Ça, je ne sais pas. Denis le sait peut-être, on va lui demander. Mais en tous les cas, il y a des tips que Denis va nous donner aussi pour vraiment réussir son risotto. Parce que un risotto, ça se fait pas n'importe comment.
Tout à fait. Et la première trace du risotto qu'on a, c'est sur le risotto à la milanaise. Et c'est un risotto qu'aujourd'hui on fait avec du safran.
Safran, oui.
Ouais.
Également, c'est une histoire de couleur finalement, cette recette. Ouais.
Et comme tu parles des couleurs, l'histoire raconte, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, qu'il y avait un peintre qui était en train de peindre un plafond, un jaune, un orange, et que les gouttes de la peinture tombent dans un riz qui sont en train de cuisiner. Et dès là, il a arrêté la cuisson un peu à l'avance, exprès pour essayer d'enlever un peu cette souplesse des peintures qui était tombée dans la casserole. Et c'est là qu'on voit le jour du riz un peu crémeux,
ouais.
Du riz mantecato. C'est pas un riz qui est plutôt sec ou dur, c'est un riz qui est servi à l'onda. On dirait presque une vague des mers.
Oui, pour rassurer les auditeurs, à l'époque, on faisait de la peinture avec des pigments naturels, donc c'était peut-être une peinture avec du curcuma ou du safran, justement, pour la colorer. Hein.
Et pas chimique, exactement. Là, on parle des plusieurs milliers d'années. Oui,
et donc, le risotto à la milanaise est jaune.
Et jaune, avec du safran.
Ouais.
Nous, en Sicile, on produit beaucoup de safran, mais je sais aussi que dans d'autres pays de la Méditerranée également, il y a pas mal de producteurs de safran. Je ne me trompe pas peut-être, que le safran, c'est une des épices les plus chères au
aujourd'hui,
monde.
Aujourd'hui, l'or jaune.
Prix au kilo, évidemment.
Prix au kilo, oui.
Alors, moi j'ai une question, parce que c'est vrai, quand on regarde, même parmi les chefs italiens, sur le risotto milanaise, il y en a qui mettent du vin blanc, il y en a qui n'en mettent pas. Alors, quelle est la vraie version, Denis? Quelle est la version originale?
Moi, la version originale, normalement, il n'y en a pas.
D'accord, c'est ce qui me semblait, c'est exactement. Avec un bouillon uniquement.
Uniquement, oui. Et normalement, même les riz est torréfié à sec, c'est-à-dire qu'on ne marche pas.
Important, c'est important. La base.
On ne démarre pas avec. Normalement, il y a des régions qui font huile échalote, par exemple. Ils font juste revenir ça et ensuite on met à torréfier les riz dedans. Moi, personnellement, je le fais à sec, c'est-à-dire que je mets les riz directement dans la casserole. Je laisse torréfier jusqu'à quand je ne l'ai plus.
Avec un petit peu de matière grasse quand même.
Rien du tout.
Rien du tout. Ah, d'accord.
Vraiment.
Ah oui, donc ça donne du goût au riz en plus.
En fait, tu le mélanges avec les mains jusqu'à quand tu n'arrives plus à le toucher parce que c'est très chaud.
C'est trop chaud.
Et
ouais.
À ces moments-là,
on arrive à 70 degrés à peu près, on ne peut plus le toucher, donc c'est là qu'il est bon.
Et là, on commence à mouiller avec un bon bouillon de légumes et ça doit chanter, ça doit chanter et c'est parti pour 18 minutes de cuisson. 18. C'est
18. En remuant tout le temps et en rajoutant du bouillon petit à petit. Hein.
Petit à petit, il ne faut jamais noyer les risottos, il faut toujours les mouiller au moins 15-20 fois pendant la cuisson. Donc vous voyez, il ne faut jamais le couvrir des bouillons.
Ouais, une fois par minute, on remet un peu de bouillon.
C'est ça. Et on mélange tout le temps. Il faut
c'est
donner
ça,
de l'amour.
Le secret, finalement.
C'est ça, il faut être derrière, il faut surveiller, Il faut presque parler avec son risotto quand on le fait.
Hey, ça doit être crémeux en plus. Hein. Ça
c'est
doit être
passion.
Crémeux et légèrement al dente en même temps. Hein,
légèrement al dente, mais même pas trop al dente. J'aime bien quand un riz c'est un peu cuit. Il faut qu'il soit rebondissant. Ça, c'est ça que j'aime bien en fait.
D'accord.
La base, c'est le risotto à la parmigiana.
La parmigiana, c'est le classique, c'est les autres blancs avec du grana padano dans la pelle dedans. C'est un parmesan de la Lombardie, un fromage à pâte dure. Et on mélange ça, donc c'est fromage, riz et un peu d'huile d'olive.
Bah, le grana padano, c'est ce qu'on doit mettre dans la carbonara. On ne met pas de, de gruyère râpée.
C'est sûr.
Ni de parmesan dans la carbonara.
Manuel Marini a une obsession sur la carbonara. Il faut savoir.
C'est vrai, j'ai une obsession sur la carbonara et d'ailleurs je me fais insulter hein, sur les réseaux sociaux. Je suis un hashtag sur les réseaux sociaux qui est le hashtag carbonara et quand des pseudo-influenceurs ou des pseudo-cuisiniers mettent des recettes avec de la crème fraîche dans la carbonara, alors on trouve aussi de l'oignon, du vin blanc, des champignons. Je les allume, je leur dis non mais il faut enlever le hashtag carbonara, c'est une honte, etc.
C'est sûr.
Ouais. Il y a pas de crème dans la carbonara et il y a pas non plus de vin blanc.
Tout à fait. J'ai aussi réalisé des carbonara. Au lieu d'utiliser bien sûr du cochon, j'utilise des languilles fumées exprès pour que tout le monde puisse goûter des vrais carbonara.
Ah, ça c'est un super, ça c'est une super recette.
Voilà, avec des languilles fumées. Donc languilles, ça porte cette côté fumé aux pâtes qu'on va chercher parfois dans le cochon. Et là, effectivement, carbonara languille, j'adore, je kiffe. C'était mon bon jaune d'œuf toujours, grana padano, pecorino. Et anguille.
Ben, je saute sur l'occasion, parce qu'en ce moment,
sur
l'occasion, en ce moment, sur le site de Beurre FM, pendant tout le confinement, je mets une recette différente chaque jour. Et ben, celle-là, Denis, si tu veux bien nous la donner, je la mettrai.
La carbonara d'anguille fumée, avec plaisir.
Ah ouais, ça, c'est top, ça. C'est top.
Vous êtes bien, Manu, parce qu'on parlait du risotto et on a quand même fini sur la carbonara, donc de toute façon.
Grana padano, c'est pour ça.
Comment on appelle le principe de cuisson du risotto? C'est quoi? C'est un riz comment? Ça commence ce principe de cuisson.
Ben moi je dirais riz à risotto. Le risotto c'est la façon d'écuire une pâte.
Ouais, c'est pas vraiment un pilaf parce qu'un pilaf c'est un peu différent.
Ouais. Mais tu sais moi quand j'ai fait des pâtes au restaurant, j'ai dit toujours quand je mélange les pâtes à la sauce, j'appelle ça risottare et les pâtes. C'est le fait de finir la cuisson des pastas, pas les finir de cuire dans l'eau, mais je les égoutte quelques minutes à l'avance pour finir la cuisson avec la sauce pour qu'elle s'imprègne totalement. Et j'appelle ça risottare la pâte. C'est cette méthode, en fait, vraiment de tout concentrer, tous les sucres, tous les jus à l'intérieur et pas juste mélanger, assembler.
Ouais. Donc, on risotte les pâtes, c'est ça. Ah ouais, c'est bien, hein. J'aime bien l'idée. C'est pas risotter, ouais, ce serait presque mijoter si on essaie de trouver une traduction.
Ouais,
ou quoi,
ouais. Ouais, exactement. C'est compliqué de trouver une traduction parfois, mais.
Non, faut le garder, faut déposer.
Risotare.
Après, il y a autant de risotto que de ménagères.
C'est ça. Il y a autant de risotto que des mamans, il y a autant de risotto que des grand-mères, tout à fait. Chacune a sa propre recette, sa propre méthode. Et donc forcément, voilà. Moi à Paris, la grand-mère de Paris, Denis, a sa façon de la faire aussi. Donc forcément.
Elle fait comment?
Et c'est comme je disais tout à l'heure, démarrage à sec. Et quand on finit, on arrête les risottos à 18 minutes. Je le couvre avec un couvercle pour le faire reposer, faire redescendre un petit peu la température avant d'intégrer les grana padano, avant d'intégrer un petit peu de beurre et un peu d'huile d'olive, exprès pour que ce ne soit pas trop chaud.
Ouais, la petite noisette de beurre à la fin pour qu'il soit bien crémeux, ça c'est indispensable. Ça,
j'adore. J'ai découvert en France que plus c'est gras, plus c'est bon. Apparemment, c'est la bonne technique.
C'est vrai, ça fait partie des dictons en France.
Et ce qui nous arrange, c'est que maintenant, visiblement, ça serait bon pour la santé. Parce que longtemps, ça n'a pas été bon pour la santé, mais maintenant, c'est à nouveau du bon gras.
Ouais, mais c'est parce qu'on les cuisait trop, les gras. C'est pour ça qu'on disait que c'était pas bon pour la santé.
C'est vrai. Les sucres n'est pas bon pour la santé. Oui. Mais les gras, oui.
Oui, on réhabilite beaucoup le beurre hein, aujourd'hui.
Oui. Bah mais maintenant on parle de ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant on parle de bon cholestérol et de mauvais cholestérol. Hein.
C'est ça.
Avant c'était pas le cas. Alors moi j'ai une question toujours sur le risotto, Denis. Il y a peut-être une vingtaine d'années, 15 ou 20 ans, j'avais goûté un risotto aux champignons, hein, risotto ai funghi, c'est ça?
Ai funghi.
Funghi de Gualtiero Marchesi.
Ah, et les papes de la cuisine italienne.
Ouais. Et j'ai essayé de le refaire à la maison. Et le problème, c'est que moi, mes champignons, ils sont toujours trop mous, alors que lui, les champignons dans son risotto, ils étaient encore un peu croquants. Alors, est-ce qu'il y a un truc pour ça, pour garder un petit peu de mâche sur les champignons, qu'ils deviennent pas tout mous?
Alors, moi, quand j'ai fait les autres champignons, personnellement, j'ai fait deux cuissons différentes sur les champignons. Les premiers, c'est que je les fais sauter vite fait dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, et je les intègre au risotto gâteau à moitié cuisson. D'accord. Si on est sur 18 minutes, quand on est à 9-10 minutes, j'intègre les champignons déjà à l'intérieur pour que ça prenne aussi le goût de champignons.
Ouais, le fait qu'ils aient décoloré, ça fait une petite croûte, du coup, ça leur garde leur consistance.
Et après, j'aime bien en rajouter aussi sur les risottos quand je vais servir à table, mais ces champignons-là, je vais les frire pour qu'ils soient croustillants.
Ah oui, ou si on les, si on a des beaux cèpes, on peut même les râper crus.
comme
une truffe.
Bien, mais là, ça, en plus, les cèpes, on en a encore maintenant, donc c'est chouette.
C'est la saison. Là.
C'est la saison, l'automne, c'est parfait.
Oui, et puis attendez, alors ça, je vais donner un, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs dans les quartiers de Belleville et autres, au marché de Belleville, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a trouvé des cèpes, des petits cèpes bouchons à 3 euros le kilo.
Ah oui.
Il faut y aller à la fermeture du marché. Comme les cèpes se gardent pas éternellement parce que les cèpes qu'on a en ce moment ils pourrissent vite. Vous allez le dimanche, allez-y demain au marché de Belleville. Si vous retrouvez le même marchand de primeur, 3 euros, il les vendait 5 euros le kilo toute la matinée.
Ah ouais, franchement.
Et en fin de matinée, 3 euros. Le kilo. Allez-y, prenez 5 kilos. Hein, vous êtes tranquille, vous pouvez les congeler les cèpes. En plus, cèpes se congèlent bien. C'est une super affaire à faire s'ils en ont toujours.
On peut les sécher ou pas
aussi, bien sûr.
Ouais, mais il faut un appareil pour ça. Il faut un dessiccateur.
C'est ça.
Ou une machine, enfin un appareil à déshydrater.
Une machine, ça s'appelle Excalibur. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Ça coûte pas trop cher.
On laisse Amazon tranquille en ce moment.
Ouais.
Au téléachat.
Attends, on m'a livré dimanche soir à 22h, t'imagines.
Pour le mushroom, vous faites le mushroom.
De la livraison,
ouais. Vous faites le mushroom Friday chez Amazon.
Ouais, c'est ça. Bien, alors dans un instant, sans parler d'Amazon, on va tirer au sort Manu.
Absolument.
Et là, vous êtes venu avec votre machine. Hein.
Ah, absolument, on a amené la machine qui tourne.
Non, mais c'est incroyable votre machine.
Ah, bah attendez,
elle fait des tirages au sort sur Instagram.
J'aurai la même la semaine prochaine ou pas pour mon tirage au sort.
Absolument.
C'est une machine.
Absolument.
Qui tire au sort sur Instagram.
C'est beau ça.
Voilà, ce qui est rare de nos jours en plus.
Ce qui est rare de nos jours.
Hein, voilà. Et puis vous pouvez, si vous voulez gagner un repas pour deux personnes chez Denis Ambrosio à emporter.
Absolument, vous allez sur mon Instagram mariani.manuel, M-A-R-I-A-N-I et M-A-N-U-E-L, comme ça se prononce. Et puis vous vous laissez guider, c'est la dernière publication et vous pouvez gagner ces deux repas superbes à emporter chez Denis.
Dessus de table jusqu'à 14h sur Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bon appétito à tous. Aujourd'hui est l'occasion de la semaine mondiale de la cuisine italienne. Et on en parle aujourd'hui jusqu'à 14h, Manu.
Absolument, jusqu'à 14h, on parle cuisine italienne avec Denis Ambrosi dans le cadre de la semaine internationale de la cuisine italienne. Donc qui se tiendra à partir de lundi. Vous avez une page Facebook qui porte ce nom, Semaine internationale de la cuisine italienne. Vous vous rendez sur la page Facebook et vous avez tout le programme des manifestations. Alors qu'ils se tiennent online, hein, puisque ça n'a pas pu être fait en présentiel pour cause de Covid. Et vous allez partir à la découverte ou à la redécouverte des risottos et puis du minestrone.
Du 23 au 29 novembre.
C'est ça, absolument. Absolument. Et puis la cuisine italienne, c'est aussi dans les restaurants de notre invité, l'ex-top chef Denis Ambrosi, restaurant Ida, restaurant Epoca et restaurant Malraux. Avec un O.
Voilà. Magnifique.
Alors, la semaine dernière, on parlait de viennoiserie, Manu, et nous avons mis à gagner le livre, de magnifique livre.
Hein, superbe livre.
Ouais, l'encyclopédie même,
ouais.
Je dirais.
Ouais. C'est absolument une encyclopédie. C'est l'encyclopédie de la viennoiserie à la maison, c'est-à-dire qu'on, comme Philippe aime bien le dire, on dédramatise la viennoiserie.
C'est important, ça.
C'est important de dédramatiser la viennoiserie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire de la viennoiserie à la maison, sans avoir des ustensiles particuliers, sans avoir des connaissances particulières, et vous allez pouvoir faire des super brioches, des croissants, des pains au chocolat, des panettone, et puisqu'on parle de cuisine italienne aussi, voilà, plein de choses merveilleuses.
Je dois dire qu'on a mangé un panettone cette semaine, Manu, mais j'ai jamais...
T'es chez qui?
Alors, j'ai oublié, mais je vais vous le dire tout de suite. C'est un panettone de chez Christophe Louis.
Ah, magnifique. Voilà. C'était magnifique. Hein, franchement, c'était...
Mais bientôt, il y aura un panettone. Je vends la mèche. Hein, il y aura un panettone de Denis Ambrosi bientôt, avec en partenariat avec Martini.
Oh, t'es au courant de tout, hein, dis donc.
Eh, mais attends, on me paye pour ça, Denis. Je t'ai déjà
comment
dit.
Comment
hein.
Tu fais
c'est ça, en c'est partenariat ça. Avec Martini.
Et Rossi, ouais.
D'accord.
Ouais.
Ah oui, la maison qui fait
des vermouths.
Voilà, des vermouths.
Des vermouths.
Des infusions et tout ça. Quoi.
Bon, alors vous avez été très nombreux à jouer. pour cette encyclopédie.
Ah oui, beaucoup, beaucoup de participants. Et donc, on va tout de suite procéder au tirage au sort. Si je retrouve mon petit outil de tirage au sort, il est là.
On
c'est
a
parfait.
Annie Pujol qui est en qui va faire tourner la rue.
Annie Pujol, mais elle est rousse aujourd'hui, Annie. Hein.
Je veux la même la semaine prochaine, s'il te plaît.
Ah, pareil.
Magique.
Bon, gros suspense. Eh oui, on a un gagnant. Non, c'est une gagnante. C'est une gagnante, c'est martine.pr6. Voilà, c'est son pseudo.
Ah, martine.pr6.
Instagram.
Ah oui, c'est intéressant, ça.
Voilà. Donc, bravo Martine.
Bravo.
Bravo Martine. On va vous écrire pour que vous nous donniez vos coordonnées. Et on va vous envoyer donc toutes les informations pour pouvoir recevoir. On va pas vous donner d'informations. On va vous envoyer le livre de Marie-Laure Fréchet qui vous sera dédicacé d'ailleurs.
Qui fait bien 3 kilos. Hein.
Ah oui, c'est un très beau livre. Hein, on a investi costaud sur les frais de port, là, je vous le dis, hein, pour vous envoyer le livre. Donc, c'est Martine Poirier, voilà, son nom, qui gagne ce magnifique livre. Hein, et donc, Martine, écoutez, on va vous écrire là dans l'après-midi pour avoir vos coordonnées.
Est-ce qu'elle nous écoute, à ton avis?
Alors, je ne sais pas, mais Martine, si vous nous écoutez, appelez-nous 01 53 48 3000. Hein, et puis, si vous voulez, Martine, vous pouvez participer aussi, comme vous êtes chanceuse, on ne sait jamais, vous gagnerez peut-être les deux repas truffes chez Denis Imbrosi.
Tiens, tu sais quoi, je vais ajouter même un livre dédicacé, alors, ces points-là, de la cuisine italienne.
Oh, magnifique, magnifique, super. Eh ben, merci pour.
Ouais, on ajoute des choses. On aime bien cette émission, j'adore,
allez,
on partage.
Tu rajoutes.
On n'a pas peur.
Ici, chez Peur FM, on ajoute tout le temps.
Absolument, c'est le petit plus.
Alors, on va parler des fromages, puisque l'Italie, ce qu'on sait moins, est l'autre pays des fromages. Combien de variétés de fromages en Italie?
Marianne, je te laisse répondre.
Alors, je ne sais pas combien il y a de variétés de fromages en Italie, mais il y en a énormément.
Alors, énormément. Mais on sait moins ça.
Je peux vous dire qu'il y en a moins qu'en France, mais par contre, on a plus des fromages AOP en Italie. C'est-à-dire qu'on a réussi peut-être à mettre plus en valeur comme la mozzarella, la mozzarella de bufalo, la burrata, les grappadano, les gorgonzola. On a vraiment plein de fromages qui sont contrôlés et qui sont d'origine protégée en Italie.
Ouais, bon. C'est ça. Il y a 400 variétés de fromages, dont 50 AOP, ce qui est énorme, et 2 IGP.
C'est ça.
Donc c'est un pays qui pèse son poids dans le secteur.
Pèse gros en fromage. Et moi j'adore ça. Je pourrais me faire des dîners à base de fromage.
Ouais. Et le fromage c'est surtout au nord. Hein, donc on fait là où il y a le plus de fromage.
Les fromages affinés c'est plus au nord. Les fromages frais comme la mozzarella et burrata c'est plus au sud.
Ouais. Et puis les chèvres aussi. Il y a des très bons dans le sud. En Sicile, en Calabre, en Sardaigne, il y a des très bons fromages de chèvre, de brebis. Ça, j'adore.
Exactement, les pecorino qui sont magnifiques.
Ouais, ouais.
Une bonne mozzarella, comment on la choisit?
Alors moi, il faut savoir qu'en France, c'est dur à avoir une mozzarella qui soit fraîche parce qu'il y a un ancien voyage. Mais à savoir, quand je l'achète en Italie sur place, elle est encore chaude et très élastique à la mâche. Chose qui est en France, quand on l'achète, elle est déjà molle. En fait.
Ouais, alors je me suis même persuadé que les Français préfèrent l'avoir un peu molle que avec de la consistance. Ouais.
Il faut savoir que c'est plus consistant, plus c'est à la mâche.
C'est frais, quoi.
C'est frais, exactement.
Ouais. Et puis alors la burrata, parce que c'est vrai qu'il y a une mode de la burrata.
Maintenant, ouais.
C'est une mozzarella qui est retravaillée, c'est ça?
Alors burrata, ça vient du mot beurre FM presque. Burrata, beurre.
Ouais, ouais.
Et c'est vraiment là. La toute première partie de la crème qui est prise. Et donc, il a le cœur qui est très moelleux, très crémeux, et l'extérieur qui est plus élastique, comme une vraie mozzarella.
Oui, on a vraiment l'impression qu'on a injecté du petit lait à l'intérieur, c'est ça. Hein, c'est ça, hein.
Et ça fait quoi? Ça fait 5 ou 6 ans que c'est très, très, très à la mode.
Ah oui, c'est en vogue. Hein.
Moi,
j'ai tout le temps la carte depuis longtemps.
Ouais. C'est un de mes plats les plus vendus, je l'ai amené même ici sur le plateau.
Oui, d'ailleurs, on va déguster ça. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas commencé à manger parce qu'on va pas vous parler la bouche pleine, mais c'est pas l'envie qui nous en manque parce que c'est magnifique. On a une petite vidéo du déballage des plats que Denis nous a amené et que vous allez pouvoir gagner d'ailleurs sur Instagram dès maintenant.
Oui. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui comme fromage qui est méconnu encore mais qui gagnerait à être connu?
Alors déjà, je voulais donner juste un petit conseil sur la burrata ou sur la mozzarella. Quand vous l'achetez, Il faut, avant de la manger, laissez-la en dehors du frigo au moins 3 heures avant. En fait, quand la burrata est trop froide ou la mozzarella, les goûts n'est pas le même. C'est comme un morceau de chocolat. Quand vous mangez du chocolat du frigo, et c'est plus dur.
Ça a goût de crème, ça a goût de gras.
Exactement. Mmh. En dehors du frigo, elles font différemment en bouche et la mozzarella, c'est pareil.
Mais est-ce que ce que vous dites est valable pour toutes les mozzarella qu'on achète dans les grandes surfaces, genre Galbani et tutti quanti?
C'est mieux, tout à fait.
D'accord, ça marche aussi pour... voilà.
Tout à fait. Mais plus les fromages sont gras, mieux c'est les manger à température ambiante. Mieux c'est.
Mmh. Alors, puisqu'on parle de fromage, il y a une autre recette emblématique que vous faites aussi chez Epoca, je crois, et aussi chez Malraux, il me semble. C'est les pâtes cacio e pepe. Parlez-nous de cette recette qui est un chef-d'œuvre.
Alors, cacio e pepe, on est dans la région du Latium, Rome. Et la cacio e pepe, cacio, c'est le fromage. Dans ces cas-là, c'est du pecorino romano qu'on utilise. Mais il n'y a pas de crème non plus. C'est-à-dire que c'est une émulsion avec l'eau de cuisson des pâtes, la pâte.
On ne jette jamais l'eau de cuisson des pâtes, on garde un petit bol pour lier sa sauce.
Ah, toujours, parce qu'elle est riche en amidon.
Ouais. Et vous n'aurez plus besoin d'acheter de crème. Et
exactement. C'est parce qu'on va faire une liaison qui est automatique. C'est presque... Je dirais même chimique, mais sans chimie, bien évidemment. C'est juste la magie de la pasta qui opère avec du pecorino romano qui va fondre tout délicatement avec la chaleur de la pasta. Et ça fait une petite sauce soit crémeuse, du velure, je dirais
voilà,
même.
Mais un peu relevé parce que le pepe, c'est du poivre mignonnette, en fait. Hein, c'est du poivre qu'on a
sauvage,
concassé.
Tout à fait, qu'on va concasser, qui va faire relever les...
Et ça, c'est simplissime. Hein. Il y a trois ingrédients, des pâtes, du pecorino, du poivre. Et c'est une recette méga gastronomique, quoi. C'est un mystère, cette recette. C'est tellement bon.
C'est simple, mais un peu technique, tout à fait.
Oui, oui. Un petit tour de main à voir. Ben ça aussi, tiens, on vous mettra, si Denis est d'accord.
Avec plaisir.
On mettra sa recette de pâte cacio e pepe sur le. On va italianiser un peu les recettes quotidiennes là sur le site Beurre FM.
Et puis, alors, les pâtes à la harissa. Alors, est-ce que c'est une version plus relevée de l'arrabbiata ou ça n'a rien à voir?
Ah ben, c'est presque un peu plus relevé que l'arrabbiata. La harissa, moi, j'adore parce que c'est piquant. J'adore tout ce qui est piquant déjà. Et les pâtes à la harissa, ça se marie tellement bien.
C'est bon, oui.
C'est quelque chose que je pourrais manger presque tous les jours.
Mais quel piment dans la... Philippe parlait des pâtes à l'arrabbiata. Qu'est-ce qu'on met comme piment dans l'arrabbiata? C'est quel piment particulier?
Moi, j'aime bien le peperoncino de chez moi. Peperoncino di Soverato. C'est une petite ville à côté de chez moi, en Calabre. Et il est extraordinaire. Puissant, parfumé, goûteux. Et en même temps, ça ne fait pas trop pleurer.
Ouais, encore un truc. En Calabre, une recette de pâtes avec des aubergines confites et du pain grillé qu'on saupoudre sur les pâtes, mais ça aussi c'est incroyable, on trouve pas ça en France.
Ah, c'est les pâtes à la norme, la pasta à la norme.
Ah ouais, non, mais c'est magnifique.
C'est magnifique.
Ça.
Et les pains que tu dis, les pains rassis, ça c'est une recette qui font toutes les mamans en Italie, vu qu'il y avait beaucoup de pauvreté aussi chez nous. Au lieu d'utiliser du parmesan, du fromage râpé, ma mère faisait du pain mixé rassis et on appelle ça les parmesans des pauvres.
Ouais, voilà, il y avait qu'un seul restaurant qui faisait ça à Paris, il y a de ça 20 ans, 25 ans. C'était chez mon copain Aldo, rue de Turenne, qui est un restaurant qui s'appelle Caruso, qui était la cantine de Pierre Cardin, qui est un Italien d'origine. Hein, toutes les stars italiennes de Paris allaient manger dans ce restaurant. Et c'est là que j'ai découvert ces pâtes. C'est hallucinant. Il faudra que je vous fasse goûter ça, Philippe, un jour. Mmh.
Alors on parle de pain, vous êtes venu avec du pain, une forme de pain noir, qu'est-ce que vous mettez dedans?
Alors c'est les pains du partage.
Ça c'est la Denis Stouch.
C'est une focaccia, à la base la focaccia c'est un pain qu'on consomme des Genoa jusqu'en Sicile. Et, bien sûr, pendant le chemin il y a des variantes qui vont être faites selon les régions. Et celle-ci c'est la variante parisienne. Vu qu'on respire beaucoup de smog, je me suis dit pourquoi pas mettre du charbon dedans. Non, sans plaisanter, c'est un pain qui est très digeste. J'achète du charbon végétal en pharmacie et que j'ai dilué dans l'eau et dans l'huile et avec lesquels après j'ai fait mon pain, ma focaccia. Donc c'est pour ça qu'il a cet aspect noir, cette couleur noire. Et quand on la mange, ça aide aussi à la digestion.
Bah, moi j'ai trouvé un nom pour votre pain, Denis, c'est la focaccia dell'Etna parce qu'on dirait les versants de l'Etna comme c'est tout noir.
C'est beau, les volcans.
On dirait la roche volcanique toute noire comme ça.
Très beau. Alors la charcuterie italienne aussi s'exporte bien.
Écoute, la charcuterie italienne, c'est effectivement, moi je vends beaucoup des charcuteries italiennes chez moi, surtout la brezzarola. Je ne sais pas si vous la connaissez. La brezzarola,
c'est le bœuf séché, c'est ça.
C'est les bœufs séchés. Et nous, on fait une recette vite fait, c'est vraiment des tranches de brezzarola coupées très finement, roquettes, des copeaux de grana padano, un jus de citron pressé minute, un fil d'huile d'olive, un pot de fleur de sel. Et c'est magique.
Simple, efficace. La cuisine italienne, on le voit avec cette recette, la cuisine italienne, on a l'impression que le produit est plus star, un peu plus star que le chef, quoi, qui la cuisine presque.
Ah ben nous on devient
au service du produit,
c'est
quoi,
ça.
Le chef, ouais.
C'est avant tout le produit avant tout, et après bien sûr les chefs qui mettent en œuvre tout ça.
Et puis il y a le jambon de Parme, hein, qui est un des jambons préférés des Français.
Ah ben le jambon de Parme, effectivement, c'est un des jambons qu'on adore les plus manger et déguster chez nous, et aussi les jambons cuits.
Ouais. Et puis il y a un jambon qu'on ne trouvait pas il y a encore 5 ans, 10 ans en France, qu'on commence à trouver, c'est le culatello di cibello.
Culatello di cibello, tout à fait. Et on fait aussi, de la même sorte que le culatello di cibello, des jambons à base de chèvre.
Oui, ah bah ça je connaissais pas.
L'épaule
des chefs qui ont les grosses fesses là, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Oui, parce que vous savez, Philippe, le culatello, ça porte son nom, ça porte bien son nom. Parce qu'en fait, quand vous regardez un cochon de dos, il a des espèces d'excroissance, hein, c'est-à-dire qu'il y a le jambon.
Il y a des jambons, ouais.
Il y a les cuisses, quoi. Mmh. Et puis, il y a une espèce d'excroissance, c'est un muscle qui est un petit peu indépendant du reste du jambon. Ben, on prélève ça et on fait un jambon avec juste cette partie-là, qui est ultra parfumée. Le culatello, il y a un goût de noisette, un peu torréfié. Il y a un goût de châtaigne, enfin il y a des, voilà, c'est très comment dire, champêtre, hein, vous voyez, au niveau du goût. Non mais c'est vrai, on a l'impression de croquer un sous-bois, hein. C'est très très bon, et ça c'est un jambon assez rare, on commence à en trouver à Paris. Oui.
Voilà, il y a noté qu'au même titre que les Turcs, les Italiens arrivent dans le secteur de la charcuterie halal, donc et de très bonne qualité. Donc il y a beaucoup de gens qui y vont, et ça va arriver là. C'est une autre gamme de charcuterie.
Ouais, parce qu'en France, la charcuterie halal, on peut pas dire qu'elle soit.
Mais les Italiens se positionnent sur le marché là-dessus.
Hein, mais on a de quoi faire.
Mais déjà, ils ont le savoir-faire, bien sûr.
Ouais. Déjà, on a plein. On n'a pas que du cochon. On a du bœuf, on a des chèvres. Je parlais de la brezzaole tout à l'heure.
Ouais, la brezzaole,
c'est vraiment des charcuteries que nous on consomme depuis des années, des années. Hein. C'est pas tout nouveau, en fait.
Ouais, il y a déjà un savoir-faire en termes de charcuterie sans cochon en Italie, qui est justement bon à exploiter. Ouais.
Bien, donc c'est à partir de lundi, donc cette semaine.
Absolument, Semaine internationale de la cuisine italienne. Vous tapez ça sur Facebook et vous allez tomber sur la page de l'événement, et vous aurez toutes les manifestations, donc là online, qui auront lieu à partir de lundi, Philippe.
Vous faites quoi, vous, Denis? Vous faites des masterclass sur le minestrone?
On fait des lives Instagram, bien sûr. On fait des masterclass, on donne des recettes, on les partage et on les déguste aussi à l'emporter dans mes restaurants.
Votre version du minestrone, à vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a d'original, de particulier?
Moi, j'adore le faire avec de la fregola sarda. C'est une petite pâte de Sardaigne que j'ai fait cuire un peu en mode risotto.
Comme les langues d'oiseau, hein, on appelle ça les langues d'oiseau.
Ah oui,
aussi, ouais.
Tout à fait. Et plein de légumes de saison dedans. Que ça passe par les choux-fleurs, par les choux, ça, on est vraiment en plein dedans. Je mets toujours un petit pot de peperoncino, des piments dedans, parce que j'adore ça.
Ouais.
Et un bon bouillon de légumes un peu réduit, bien calqué, légèrement sapide.
Oui, et puis les bouillons, vous savez faire, parce que vous avez travaillé avec William Ledeuil, le roi du bouillon.
Ça fait des magnifiques bouillons, et c'était plutôt avec des rhizomes asiatiques, avec citron et les gingembre. Mais effectivement, la concentration des jus, l'extraction des bouillons, c'est William, c'est un professionnel.
Et là, c'est plat unique, hein. Vous pouvez y aller. Hein.
Ah, plat unique, mais moi, quand je mange un minestrone, j'en mange 200-300 grammes. Hein. C'est pas la petite gamelle, c'est la grosse gamelle.
Oui, 200-300 grammes hors taxe, Denis. Hein.
Hors taxe.
On se connaît. Hein.
Après, j'ajoute un peu d'huile d'olive, un peu de grana padano râpé, et les jeux est fait.
Et accompagnement.
Oui, il ajoute quelques petits condiments dessus. Ouais.
C'est ça.
Très bien. Alors, je rappelle que vous jouez avec nous, et si vous voulez goûter la cuisine de Denis, c'est très simple, Manu.
Alors, deux menus de truffes à gagner avec antipasti, burrata, pasta garofalo al tartufo, donc à la truffe blanche, et du tiramisu pour deux personnes. Vous allez sur mon Instagram mariani.manuel et vous vous laissez guider, et vous pourrez gagner donc ce menu pour deux.
Avec un livre en plus. Hein.
Avec un livre en plus, c'est vrai, parce que Denis Imbrosi fait les enchères. C'est-à-dire que si l'émission...
Et ça grimpe.
Voilà, l'émission aurait duré une heure de plus, vous auriez gagné un truc complémentaire, mais malheureusement on doit s'arrêter.
Merci Denis d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, Dessus de Table revient à son horaire habituel, midi 13h. Passez un très très bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.